sur Sois Mère et Tais-toi, le podcast qui dégomme les idées reçues et les injonctions sur la vie de maman. Je m'appelle Adèle, je suis moi-même maman de 4 enfants et je suis aussi coach des mamans surchargées, c'est-à-dire que je les aide à alléger leur quotidien, faire de la place dans leur agenda et mettre plus de fun dans leur vie. Toutes les semaines, je publie un épisode avec un invité ou en solo dans lequel je te partage toutes mes connaissances de coach, mais aussi ma vie de maman. Avec ce podcast, je veux t'aider à comprendre ce qui surcharge ton agenda, ce qui compte pour toi, ce qui te donne l'impression de courir sans arrêt, sans jamais réussir à te poser ou à même prendre du temps pour toi. Et je te partage les clés pour transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, celle de ma famille et celle de mes clientes. Tu peux me retrouver sur Instagram, à Adèle Saint-Gier, mais aussi sur Telegram, c'est mon nouveau chouchou. Pour avoir mon actu toute fraîche, connaître mes programmes d'accompagnement ou juste entrer dans mon quotidien de maman, mais aussi de femme, d'amis, de sportive, de pédagogue et de tous les sujets qui me passionnent et qui méritent tous une place dans ma vie. Bonne écoute! Salut à toi chère merveilleuse, aujourd'hui je voudrais te parler de délégation et de pourquoi c'est, bon Dieu, si compliqué de réussir à déléguer et de réussir à déléguer efficacement. Je vais te donner mon point de vue sur cette question et des pistes pour que ça marche mieux la prochaine fois. Alors, il y a plusieurs choses à mon sens. La première chose qui coince aux entournures quand on essaye de déléguer une tâche de sa to-do list à quelqu'un et qui est plus à un membre de notre famille, c'est que souvent, la plupart du temps, tu délègues pas toute la tâche. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire, enfin je dis même très souvent, que pour moi il ne faut pas déléguer, il faut confier complètement. En fait, dans une tâche, il y a pour moi 4 sous-items. Il y a programmer, prévoir, exécuter et surveiller, vérifier. Et le problème qui se passe très souvent, c'est que quand tu délègues, tu ne délègues qu'une partie de ces 4 sous-items. T'en gardes forcément un peu pour toi et que tu en gardes 1, 2, 3 ou 4. Au niveau de ta charge mentale, c'est exactement la même chose. Je te donne plusieurs exemples. Si tu ne gardes que le vérifier, que tu délègues les 3 autres, donc programmer, prévoir, exécuter, mais que tu dois quand même vérifier, éventuellement corriger si ce n'est pas à la hauteur de ce que tu voulais, en termes de charge mentale, tu n'as absolument rien gagné. De la même façon, la plupart du temps, quand tu ne délègues qu'un seul de ces 4 sous-items, souvent ce que tu vas déléguer, c'est l'exécution. C'est ce que tu délègues le plus souvent. C'est-à-dire que tu vas prévoir, tu vas programmer, tu vas demander qu'on délègue et puis tu vas vérifier que c'est bien fait. Le problème, c'est que l'exécution, la plupart du temps, c'est ce qui te coûte le moins d'énergie. Parce que c'est souvent dans ton domaine d'expertise, c'est quelque chose que tu maîtrises absolument. Donc l'exécution, c'est pas ce qui te charge le plus, c'est ce que tu vas faire de manière automatique, quasiment sans y réfléchir. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on en arrive à « laisse, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite ou ce sera mieux fait ». Je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Donc, quand on veut déléguer, il va être impératif de déléguer ces 4 sous-items. Si tu t'en gardes un des 4 pour ta charge mentale, c'est mort. D'une part, ça va continuer à te charger. D'autre part, tu vas garder un peu le nez dans cette tâche et du coup la personne à qui tu la délègues va se sentir un peu comme un exécutant, comme un sous-fifre, et donc elle se sentira pas valorisée, elle se sentira pas en confiance, elle sentira pas que tu as confiance en elle pour faire cette tâche. Et soit elle va se reposer sur toi en mode bah, de toute façon si t'es là pour vérifier ça veut dire que je peux me la couler douce, soit elle va se sentir suffisamment pas valorisée pour ne pas avoir envie de le faire ou ne pas avoir envie de le refaire. Donc c'est souvent pour ça que la délégation ça marche pas, c'est parce que tu confies pas tout, tu continues à garder un petit peu l'ainmise sur cette tâche, des fois que ce soit pas fait comme tu veux, et du coup tu décourages complètement la personne que tu as en face de toi. Donc tu vas me dire c'est super Adèle, mais moi si je vérifie pas que c'est bien fait, il y a des chances que ce soit pas bien fait. Je sais. Il y a des chances, il y a même un risque assez considérable que ce soit pas bien fait pour toi. C'est-à-dire que forcément, si tu cherches à déléguer une partie de ta to-do list qui déborde, ça fait partie des choses que tu fais déjà et donc que tu maîtrises déjà. Tu vas avoir sur cet item-là forcément un niveau d'expertise assez élevé et tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui a le même niveau d'expertise que toi ou qui a un niveau d'expertise plus élevé. Dans ton entourage proche, ça va être compliqué. Donc la plupart du temps, tu vas déléguer ça à quelqu'un qui a un niveau d'expertise inférieur. Donc forcément, ça va être moins bien fait que si c'était toi. Ça, malheureusement, c'est obligatoire. Et ça va être moins bien fait, certes, mais au moins ça va être fait. Et fait est toujours mieux que parfait. Et pendant ce temps-là, toi, tu peux faire autre chose. Tu peux, par exemple, prendre soin de toi, remplir tes réservoirs et remplir suffisamment tes réservoirs pour accepter l'idée que cette tâche va être moins bien faite. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Plus sérieusement, pour accepter ce niveau d'exigence différent, c'est hyper important de te rappeler pourquoi tu as confié cette tâche, pour avoir du temps. Te rappeler de l'effet de la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que tu confies une tâche à quelqu'un qui n'a pas ton niveau d'expertise. Si tu veux qu'il arrive à ce niveau d'expertise, il va falloir lui laisser le temps d'y arriver. Et pour lui laisser le temps d'y arriver, il y a une courbe d'apprentissage qui va passer par plusieurs erreurs, qui va prendre un petit peu de temps en fonction de, du niveau d'expertise de la personne en face. Si c'est un de tes enfants, ça va dépendre aussi de son âge et de sa maturité. Et si tu ne tiens pas compte de cette courbe d'apprentissage, bah, il ne se passera rien. Et cette courbe d'apprentissage, elle est hyper importante pour que tu puisses finir par totalement confier cette tâche. Donc, il va falloir absolument accepter ce niveau de résultat différent de façon à donner confiance à la personne à qui tu délègues, à lui laisser un petit peu de marge de courbe d'apprentissage pour qu'elle arrive à ton niveau d'exigence et de façon à ce que la prochaine fois, ça se passe de façon plus fluide. Le deuxième effet qui se coule de réussir à diminuer ton niveau d'exigence, ça va être de... d'avoir de plus en plus d'aide. C'est-à-dire que si à chaque fois que ton niveau d'exigence n'est pas comblé, tu le montres de façon plus ou moins bienveillante et agréable, personne n'aura envie de t'aider et de se laisser confier des tâches. C'est un peu l'idée de dire « ben non, je vais pas le faire, de toute façon, ça sera moins fait, tu vas râler ». J'exagère, mais à peine. Je te dis ça parce que je l'ai fait très 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 longtemps. Le jour où je me suis aperçue qu'à chaque fois que je confiais quelque chose, je disais « mais non, mais c'est pas bien fait, c'est pas ce que je voulais ». Je me suis dit « bah en fait, forcément, ils vont jamais vouloir recommencer. Si je râle à chaque fois que je dis que c'est pas bien fait », c'est d'ailleurs un de mes grands, je crois, qui m'a dit « bah écoute, si c'est pas bien fait, tu sais quoi, fais-le ». Oui, effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle. Donc, tu vois, l'idée, c'est que si tu veux encourager ton entourage proche à t'aider et à prendre des tâches de ta to-do list qui te surcharge, il faut absolument que tu leur fasses confiance. Plus tu leur fais confiance, plus tu leur montres que tu n'es pas derrière leur dos à vérifier que ce soit bien fait ou à vérifier que ce soit fait tout court, et plus ils vont se sentir responsabilisés, plus ils vont avoir envie de participer. Donc ça c'est le deuxième effet qui se coule de la diminution de ton niveau d'exigence. Et enfin, ce qui pose aussi parfois problème, voire souvent dans la délégation, et là encore vraiment, je te dis ça sans jugement, et je te dis ça parce que je l'ai fait moi-même et parce que je me suis rendu compte de ça sur moi, il y a ce petit côté un peu, moi je sais tout faire, je sais tout gérer, et regardez comme je sais tout faire et que je sais tout gérer. On a un petit peu quand même, alors ça dépend des personnes, mais si tu es la personne qui a le plus en charge la gestion de ton foyer et des enfants, tu en retires souvent une sorte de fierté qui n'est pas du tout injustifié, hein. Mais cette sorte de fierté a tendance à... c'est un peu le cercle vicieux, le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que regardez comme je maîtrise tout bien, et donc je ne vais pas vous confier des choses, parce que si je vous confie des choses, ça veut dire que ce n'est pas moi qui maîtrise tout, et donc je perds un petit peu de mon effet superwoman. Vraiment, je te dis ça en toute bienveillance, parce que moi je me suis rendu compte de ça chez moi. J'avais ce besoin de tout contrôler et de tout gérer, un peu aussi pour dire et pour montrer que moi je savais tout faire, et puis que moi j'avais jamais le temps de me reposer, et puis moi j'ai tellement de choses à faire, je suis tellement débordée. Alors j'exagère un petit peu le tableau, mais il y avait quand même un petit peu de ça chez moi, je me suis rendu compte. Ce petit côté superwoman, je gère tout, je fais tout. Et non, laisse, je vais le faire parce que ce sera pas bien fait. Donc vraiment, quand tu as du mal à déléguer, ou quand tu essayes de déléguer quelque chose et puis que tu reprends les rênes tout de suite comme ça, moi je te conseille d'aller creuser ce petit côté hyper contrôlante qu'on a parfois, et d'aller l'interroger. Pourquoi est-ce que je le laisse pas faire ? Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai peur que ce soit bien fait, que ce soit pas bien fait ? Ou est-ce que c'est parce que j'aime bien cette idée de contrôler, et puis parce que quelque part, ça me valorise le fait d'avoir tout ça à gérer, d'avoir tout ça à faire et de jouer un peu les mamans superwoman ? Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant d'aller creuser ce petit côté qu'on a parfois, qui est pas joyeux. Alors, c'est sûr que quand tu te rends compte de ça, bon, ton ego en prend une petite claque quand même. Moi, la première, je me suis dit vraiment, j'étais vraiment pas fière de moi. Mais le fait d'en prendre conscience, de l'admettre, ça te permet de faire un grand pas dans la délégation et de te dire ouais, après tout, c'est complètement stupide de vouloir tout contrôler, on va tous s'y mettre, et j'aurai quand même beaucoup beaucoup moins de choses à faire, et je vais pouvoir enfin me reposer. Donc, ceci étant dit, maintenant comment on fait ? Moi je te conseille de commencer en termes de délégation par les tâches qui ne sont pas trop engageantes émotionnellement pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu challengeant, mais pas trop. Si tu confies une tâche qui représente beaucoup pour toi et dont surtout le résultat et la qualité du résultat est très importante, si tu la confies d'emblée d'un coup d'un bloc et que ça se passe mal, tu vas faire machine arrière toute et tu vas dire « Ah bah non, il faut que je reprenne le contrôle de tout parce que sinon ça fonctionne pas. » Non, on commence petit à petit, on commence par des choses qui ne sont pas trop challengeantes, qui, si le résultat est pas terrible, c'est pas très grave, et qui vont quand même te mettre le pied à l'étrier en termes de délégation. Tu vas pouvoir gagner un petit peu de temps et tu vas avoir envie de retenter l'expérience d'abord sur cet item-là, et puis la courbe d'apprentissage des gens à qui tu as délégué va s'améliorer, ils vont maîtriser, et tu vas pouvoir passer à autre chose d'un petit peu plus challengeant et d'un petit peu plus difficile. Là aussi, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai voulu commencer à déléguer aux enfants, par exemple, leur valise, le fait que ce soit eux qui fassent leur valise quand ils partent en vacances, j'ai d'abord commencé par... Alors déjà, les plus grands, évidemment. Les plus grands, ça fait longtemps que je m'en occupe plus, mais j'ai pas forcément en plus commencé au même âge avec les mêmes enfants, parce que ça dépend vraiment de leur degré de maturité. Typiquement, ma fille, quand elle est partie aux États-Unis, elle avait pas 10 ans, elle a fait sa valise toute seule, j'ai même pas vérifié. Parce que je la connais par cœur. Alors, ce n'est pas parce que c'est une fille, hein, c'est vraiment son tempérament qui fait ça. Elle est très 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 autonome depuis qu'elle est toute petite, donc je savais pertinemment que je risquais et pas grand chose. J'ai pas forcément fait la même chose avec son frère quand il est parti aux États-Unis. Il avait quasiment le même âge, il partait quand même pour 3 semaines. En plus, lui, il avait plus la trouille parce qu'il maîtrisait moins l'anglais. Et donc, le fait de vérifier avec lui sa valise et de l'aider à faire sa valise, ça le rassurait aussi. Donc, tu vois, ça dépend aussi des enfants, du contexte, du degré de maturité. Mais bref, au début, quand j'ai commencé avec les petits, par exemple, j'ai pas commencé sur des moments où il partait en colo tout seul. parce que là je voulais vérifier qu'ils avaient tout. Je savais qu'une fois sur place ils n'auraient pas forcément quelqu'un pour leur donner ce qui manquait, et qu'ils seraient tout seuls, un peu pas isolés mais sans nous en tout cas, et que ça pouvait les stresser de se rendre compte qu'ils avaient oublié quelque chose. Bref, j'ai commencé par les valises de quand on part tous ensemble, et où je sais que je serai là pour aller acheter une brosse à dents, un gel douche, ou pour dire bah écoute, c'est pas très grave si t'as oublié trois paires de chaussettes. Tu vois, l'idée, c'est de commencer vraiment petit. Pareil pour les devoirs. Quand tu veux responsabiliser un maximum tes enfants de façon à ce qu'ils fassent le plus possible leur travail scolaire tout seul. Alors moi, j'ai commencé assez tôt, donc je suis arrivée assez vite à une délégation absolument totale. Mais tu peux très bien commencer par exemple, juste une matière. Bon, bah cette matière-là... t'es assez à l'aise, donc est-ce que ça te convient si je te laisse faire tout seul, c'est-à-dire que c'est toi qui vérifies ce que tu as à faire, c'est toi qui révises tes leçons, c'est toi qui fais les exercices, et on voit comment ça se passe dans cette matière. Ou alors, je sais pas moi, par exemple, tu peux dire, bah ce jour-là, tu fais tes devoirs tout seul et on voit comment ça se passe. Le reste du temps, c'est moi qui te dis, ben, est-ce que t'as bien fait tes devoirs hier, etc., etc. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit, pas en gardant le contrôle, mais en gardant la sécurité. Parce que si tu confies tout d'un coup à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire ça, les ratés peuvent être assez douloureux pour toi comme pour la personne à qui tu délègues. Alors, ça peut arriver que des fois, tu sois forcé de lâcher totalement prise et de déléguer d'un coup, et c'est ok. Je vais te raconter l'histoire de mon grand qui ne se réveillait pas tout seul jusqu'à assez tard. Hein. On était pas au lycée, mais en fin de collège quand même. Et son père le vérifiait tous les soirs son emploi du temps pour lui servir de plan B le lendemain au réveil. Et un jour, mon mari me dit bah, « c'est pas la peine que je réveille Vivien, j'ai vu sur son emploi du temps qu'il commençait à 9h ». Et donc, en plus, ce matin-là, son réveil a sonné, il entend son réveil, il dit bah, « il a dû se tromper, je laisse dormir ». Moi, je me suis pointée comme une fleur dans la chambre de mon grand à 7h30, et là, il m'a dit « j'ai un devoir à 8h ». Ah oui, effectivement, là, tu ne seras pas du tout, sachant qu'il a 40 minutes de trajet pour aller au collège. Bon, bah, c'était fichu. Là, c'était vraiment un cas de force majeure. Alors, ça s'est très bien déroulé, hein. Il a pu faire son devoir, il a même eu une bonne note, toutes les planètes se sont alignées, bref, ça s'est bien passé. Mais du coup, quand il est rentré du collège, je lui ai dit, là, mon chat, on va être obligé de faire quelque chose, parce que manifestement, ce qu'on a mis en place, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir que ce soit toi qui t'occupes de ton réveil. Ce qui voulait dire qu'il y aurait forcément des ratés. Mais ces ratés-là, moi, je les acceptais. Lui aussi. Au collège, en plus, les punitions pour les retards n'étaient pas trop sévères, ce qui n'est pas le cas du lycée. Parce que quand ils sont en retard, ils ont une heure de colle. Moi, je trouve ça assez raide, mais bref. Au collège, c'était assez gentil. On avait encore, c'était en troisième, donc on avait encore une fin d'année pour expérimenter le truc. Et donc, je lui ai donné tous mes tips pour vraiment se lever le matin. Mais surtout, je lui ai dit, maintenant, on ne te réveille plus, parce que si tu continues à compter sur nous, des ratés comme celui de ce matin, il y en aura encore. Donc, il a été obligé de prendre ça un peu, il n'était pas tout à fait préparé, mais on n'avait vraiment plus le choix. Là, je ne pouvais plus lui dire, bon, bah, on essaye une semaine, et puis si je vois que... Non, il fallait vraiment que ce soit lui qui prenne la responsabilité totale de ses réveils. Et il y a eu deux ratés à la fin de l'année, deux fois où j'ai appelé le collège en me disant, bah, excusez-nous, Vivien, c'est raté. Et comme je savais que ça pouvait arriver, j'ai bien sûr pas, je me suis absolument pas mise en colère. J'ai dit à Vivien, bah ok, tu vois, ça faisait partie des risques. On savait que ça allait arriver. C'est comme ça que tu apprends. On va voir ce qui s'est passé. Pourquoi t'as pas entendu ton réveil ou pourquoi tu l'as pas mis. On essaiera de gérer ça plus tard ce soir. part au collège, je préviens, et ce soir on en rediscute. Le soir, j'en rediscute avec lui, qu'est-ce qui s'est passé, t'as pas mis ton réveil, pourquoi, à quel moment tu peux enclencher ton réveil de façon à ne jamais l'oublier, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a fini par être totalement autonome, alors non seulement sur son réveil, mais aussi sur son emploi du temps, à tel point que moi, des fois, quand je le vois se lever plus tard, je dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, j'ai cours à 10h, maman. » Ah oui, effectivement, je n'avais pas du tout capté. C'était ce que je voulais obtenir, mais que j'arrivais pas du tout à obtenir avec lui, alors que sa sœur ne s'est quasiment jamais réveillée en retard depuis la 6e. Donc c'est pour te dire qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, et là pour le coup c'est même pas une histoire de maturité, c'est une question de fonctionnement du sommeil. J'ai un grand qui a un sommeil extrêmement profond et qui a beaucoup de mal à se lever, alors que sa sœur entend un bruit... et réveillée et au taquet tout de suite. Bon bah du coup je pouvais pas agir de la même façon avec mon grand et avec ma fille. Chacun avait des besoins différents. Donc quand tu confies un item, il va falloir que tu t'adaptes aussi à la personne que tu as en face, à son fonctionnement, sa courbe d'apprentissage, son degré d'expertise sur l'item en particulier, et n'hésite pas à y aller petit à petit autant que possible, sauf en cas d'urgence, comme les réveils de mon grand, de façon à ce que tout le monde soit zen, que ça se passe le mieux possible, que tu aies juste à rectifier éventuellement les petits ratés, mais que ça ne te mette pas dans une panade pas possible, ni toi, ni la personne à qui tu délègues, parce que ça va pas te donner envie de recommencer, et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, on récapitule, pour une délégation réussie, on pense bien à confier les 4 sous-items. N'oublie pas, programmer, prévoir, exécuter et surveiller. Il faut absolument que tu donnes les 4, sinon ça ne peut pas fonctionner. Accepter la courbe d'apprentissage, baisser ton niveau d'exigence sur le résultat et penser à surveiller un petit peu ta cape de superwoman et ton besoin de contrôle. Et commencer par un item qui n'est pas trop challengeant, un petit peu, mais qui risque pas de te mettre en insécurité physique ou psychique, sauf cas de force majeure et en connaissance de cause, comme le cas du réveil de mon grand. Et petit pas après petit pas, tu vas progresser comme ça, tu vas confier de plus en plus de choses et tu vas faire comme moi, à force de les confier, tu vas finir par les oublier et le jour où les personnes à qui tu les as confiées ne sont plus là, tu te dis « Ah mince, j'ai complètement oublié d'aller au compost !» Par exemple, ça c'est un exemple que je te donne. Donc parce que la personne à qui tu l'as confié n'est plus là et donc tu l'as totalement oublié. Ça pour moi c'est une délégation réussie, c'est quand tu oublies complètement l'item qui fait absolument plus partie de ton cerveau et de ta to-do list et que du coup tu peux le remplacer par autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur la délégation. Si malgré tout tu as un mal fou à répartir la charge mentale de ton foyer et à déléguer un maximum de ta to-do list pour pouvoir souffler, n'hésite pas à nous rejoindre dans mon moment, c'est le thème du mois et il n'est pas du tout trop tard pour le rejoindre, bien au contraire, tu trouveras toutes les infos dans la description de cet épisode. J'ai hâte de te recevoir dans ce programme qui nous fait avancer tous les jours vers une vie de maman zen et fun. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter, commenter, mettre des cœurs et des étoiles, partager autour de toi. Tous les retours sont bienvenus pour m'aider à faire connaître ce podcast. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas à quel point tu es merveilleuse.